Média francophone public.
Radio France.
RTBF. Radio-Télévision Suisse.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone spéciale Radio France Faites le Livre. Aujourd'hui à Paris, vous l'avez entendu, devant un public de 200 lycéens. Bonjour à tous. Quelle ambiance. Vous allez vivre avec nous comme la semaine dernière au Salon de Montréal, cet événement en France, où que vous soyez dans le monde. C'est l'invité d'honneur de cette 7e édition de Radio France Faites le Livre. Elle est belge et elle est lue à travers toute la francophonie et même au-delà. Bonjour Amélie Nothomb.
Bonjour.
Comment allez-vous Amélie?
Très bien, je suis enchantée d'être là.
Très bien. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui?
Je suis en transe.
Bon. Nos libraires vont parler de votre dernier roman qui évoque une vengeance familiale et vous serez avec nous tout au long de l'émission pour intervenir quand vous le voudrez. Nous sommes avec un grand artiste calligraphe tunisien, Lassad Metoui, a collaboré avec de nombreux écrivains. Rencontre avec Amélie Nothomb tout à l'heure. Alexandre Jardin publie un roman complètement fou qui célèbre l'amour, la passion et les rencontres. Selon lui, nous ne devrions vivre que pour ça à 100%. Nous verrons avec lui si c'est possible. Il est en plateau avec nous. Elle est notre auteure italienne. Oui, vous pouvez l'applaudir, Alexandre Jardin. Tous d'ailleurs. Elle est notre auteure italienne pétillante préférée. Simonetta Greggio revient dans la librairie francophone pour une fresque amoureuse très intense et donc très italienne. Et puis de la musique avec un célèbre chanteur pop marocain, Ahmed Sultan, est dans notre grand studio 105 de la Maison de la Radio pour un titre acoustique. Vous découvrirez l'un des artistes de la nouvelle vague musicale du Maghreb.
La librairie francophone, émission spéciale, Emmanuel Kérad.
Et quatre libraires sont avec nous aujourd'hui. Josiane Letourneau est libraire à Montréal dans la librairie du Square. Bonjour Josiane.
Bonjour, c'est tellement calme ici à côté de chez vous.
Ah oui, ça, il n'y a pas de mal. Vous êtes depuis nos studios de Montréal, vous représentez donc le Canada cette semaine. Oui. Déborah Damblon de la librairie La Licorne à Bruxelles représente la Belgique, comme chaque semaine. Bonjour Déborah.
Bonjour tout le monde.
Tout va bien, bonjour, vous pouvez applaudir Déborah, tous les libraires.
Oui, ben merci.
Alors, pourquoi se priver, hein? En Suisse, c'est Claire Renaud qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Claire.
Bonjour à tous. Moi, je serais bien avec vous aussi.
Vous l'êtes quelque part. Et sur le plateau de Radio France, c'est le chanceux de la semaine. C'est Mathieu Colombe de la Librairie Goulard à Aix-en-Provence. Bonjour Mathieu.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous tous les quatre. Et bonjour Simonetta Greggio.
C'est par moi qu'on commence?
Oui, exactement. Avec une petite histoire. Vous savez, c'est la tradition dans cette émission. On commence par une histoire, une anecdote personnelle racontée par l'un de nos invités. Vous avez cette lourde charge, Simonetta. Allez-y, que voulez-vous
Alors,
raconter?
C'est une histoire avec un esprit de Noël. L'année dernière, l'un de mes fabriques préférées de panettone en Italie a fermé. Et depuis, on ne savait plus quoi faire, s'il y avait du panettone c'est à Noël ou pas. Et en fait, il y a deux employés qui ont recueilli la levure mère, qui l'ont soignée tous les jours et qui ont réussi à réouvrir la fabrique de panettone. Donc cette année, on aura de nouveau du panettone en Italie.
Ah, génial. C'est vrai que c'est pour Noël, le panettone,
voilà,
en général.
Ouais. Et puis voilà, c'est un étouffe chrétien qui est trop bon.
Une brioche avec des raisins dedans, des écorces d'orange aussi.
C'est ça.
Quoi d'autre? Du rhum?
Non, ça c'est pas pour
non.
Les enfants. Non.
Non. Bon, merci pour cette histoire. Simonetta Greggio est dans la librairie francophone cette semaine. Bonjour Alexandre Jardin.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous Alexandre pour la première fois dans la librairie francophone. Double cœur vient de paraître aux éditions Grasset. C'est un roman complètement fou qui incite les lecteurs à faire des rencontres, à aimer et à vivre des passions sans restriction. C'est un peu ça.
À en faire une œuvre d'art.
Oui.
Et pendant que ma voisine expliquait les histoires de Panettone, je me suis dit qu'est-ce que je dirais à sa place. Et je reviens de Rimouski, au Québec, à l'embouchure du Saint-Laurent, et je suis tombé sur un vieux monsieur qui me dit « Voilà, je suis en train de lire votre livre, et je me suis demandé ce que je pouvais faire à mon âge, dans ma vie amoureuse. » Et j'ai décidé de renvoyer toutes les lettres que j'ai envoyées à ma femme il y a plus de 50 ans, avec un timbre par jour. Je lui renvoie toute notre correspondance en écrivant en rouge dessus tout ce qui est encore vrai. Voilà. Et je trouve ça d'une poésie incroyable.
Alors, vous êtes en présence de 200 lycéens aujourd'hui. Je sais que vous êtes très attaché à la relation aux jeunes. Vous avez des projets aussi d'éducation à la lecture, plein de choses comme ça. C'est le conseil que vous leur donneriez pour l'avenir, ça ? Donner de l'amour ?
En faire un jeu extraordinaire. De ne jamais oublier d'en faire un jeu. L'esprit de sérieux, c'est ce qui tue absolument les rapports amoureux. Est-ce qu'on est capable, en vieillissant, quand on démarre ado, mais est-ce qu'on est capable, sur la durée d'une vie, de rester des gens capables de jouer, comme ce vieux monsieur qui va poster des lettres envoyées il y a 50 ans ? Marrez-vous.
Votre roman commence par une histoire un peu étrange, Alexandre Jardin, un livre de 42 pages, publié par un éditeur argentin en 1947, qui prône l'amour-création et, je cite, le sexe déplafonné. Oui. On va dire qu'on parle encore de sexe dans cette émission. Déjà à Montréal la semaine dernière, on a eu des reproches, mais alors là, c'est déplafonné. Donc, qu'est-ce que c'est le sexe déplafonné, Alexandre ?
Très joyeux. Très joyeux. Est-ce qu'on en fait à nouveau une œuvre d'art ou est-ce qu'on en fait une routine ?
Ouais.
Est-ce qu'on en fait une invention ? Est-ce que ça reste quelque chose de totalement aventureux et poétique ? Il y a 3 semaines, il y a une lectrice, par exemple, je prends un exemple, de double cœur qui me dit, voilà, j'étais au milieu de la lecture de votre livre, elle est belge. Elle s'est arrêtée en bas d'une colline, elle a laissé sa voiture et elle a dit à son mari, voilà, on va sortir, on va se déshabiller, on va courir tout nu en haut de la colline pour s'embrasser sous les étoiles. Le mec, son mari l'a regardé, il a dit « Qu'est-ce que t'es en train de lire ?» Ils sont sortis, ils se sont déshabillés, ils ont été s'embrasser sous les étoiles. Voilà.
C'est génial.
Ça m'enchante que des lecteurs puissent ponctuer leur lecture de
Attendez, on va demander si Amélie a déjà gambadé dans la forêt pour toute nue pour aller s'embrasser quelque part.
Uniquement dans la forêt amazonienne.
C'est vrai ?
Là, au moins, il fait assez chaud pour le faire. Ici, il fait trop froid, franchement.
Bon, au passage, vous rendez hommage à Jean d'Ormesson, à Alexandre Jardin, qui aurait lu d'ailleurs ce fameux livre, qui n'existe pas, le livre de 42 pages dont vous parlez, pour en faire profiter ses conquêtes. On pense à lui très fort, à Jean, puisqu'il est décédé le 5 décembre l'année dernière, donc ça fait presque un an. Vous l'avez glissé dans votre livre ?
Parce que c'est le parfait double cœur. 2 semaines avant sa mort, j'avais fait venir le ministre français de l'Éducation à l'Académie française, et pendant qu'il faisait un discours très officiel, Jean m'a proposé un truc de fou amoureux. Et je lui ai dit, non, Jean, on peut pas faire ça. Et puis il est mort. Et donc,
C'est quoi le truc de fou?
2 semaines avant sa mort, il pensait à ça.
Oui, mais c'était quoi le truc de fou?
Ah non, ça, je peux pas le dire.
Ah, carrément.
Non, mais ça veut dire qu'il y a des gens qui arrivent à l'extrême fin de leur vie et qui restent éperdument
amoureux.
Des artistes passionnés,
On va écouter la bande originale de votre livre, Alexandre Jardin. On vous a demandé quelle musique illustrerait le mieux ce récit. Et vous avez choisi Jacques Brel, Quand on n'a que l'amour. Allons-y.
Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours.
Et Alexandre, votre personnage qui s'ennuie dans son couple, veut vivre à fond. Il dira « Négocier avec mon désir est inconcevable ». Et sa compagne, elle voit les choses tout autrement. Elle lui explique que vivre en couple, eh bien, c'est aussi être capable de s'ennuyer ensemble. Mais il faut faire des compromis, Alexandre Jardin, non ?
Je suis contre. Je suis, mais alors là, totalement, mais totalement contre.
Les compromis ?
Et comme je voulais que... Oui, je suis pas d'accord. Oui. Donc, et comme je voulais que, lorsque les lecteurs de double cœur ne sont pas en couple, ça arrive, qu'ils puissent trouver des gens aussi fous qu'eux. J'ai écrit un mode d'emploi à la fin du roman pour qu'ils puissent se géolocaliser en utilisant une application qui s'appelle Appen. Et les gens sont en train de le faire. Et ce qui me fait hurler de rire, c'est que quand je fais une rencontre en librairie, je leur dis jouez avec l'application, les gens le font, et j'étais il y a 15 jours à Toulouse, et en sortant de chez le libraire, les gens l'ont fait, et le lendemain, j'avais des messages de gens... J'étais couru après, à l'intérieur dans la ville de Toulouse, toute la nuit, parce en donnant des rendez-vous dans des bars. Je me dis que si en sortant des librairies, on est encore capable de faire ça, tout va bien.
C'est une application qui permet de se géolocaliser. Voilà, les gens qu'on croise dans la rue. Oui. Et de les retrouver.
Si on est double cœur ou pas.
Mais ça, c'est votre héritage familial, Alexandre Jardin. Parce que votre famille a tellement été dingue de ce côté-là, sexuellement, hein, notamment votre mère, vous racontez ça dans votre précédent livre, faisait des trucs incroyables. Et elle vous disait, nous devons tout à l'amour fou. Donc c'est de l'atavisme. Vous êtes devenu comme ça, vous-même. Un petit peu, presque obsédé.
Pas obsédé. J'ai appris que c'était la chose importante.
Ouais.
La première fois que j'ai ramené une fille à la maison, elle était slovène. Et elle est repartie par un train au bout de 3 semaines, par un train de nuit Gare de Lyon. Et j'étais complètement désespéré, j'étais en larmes, je suis rentré à la maison. Et mon père m'a dit, mon chéri, on va rattraper le train.
Ouais, c'est vrai ça.
Et donc, on a couru à Orly, on a pris un avion qui s'est posé à Trieste, on a roulé une partie de la nuit, on était à Ljubljana, le lendemain, sur le quai de la gare, et là, papa m'a dit, tu seras inoubliable pour les filles de sa famille pendant 50 générations. Elle m'avait planqué, qu'elle avait un boyfriend qui l'attendait sur le quai. On a traversé l'Europe pour rien.
On est reparti
à la queue basse, mais en même temps... Il m'a montré qu'il était moral de claquer du fric pour ça.
Bien, on va laisser la parole à nos libraires, Alexandre Jardin, passionné et amoureux. Le Canada, la Suisse et la Belgique, on commence par qui, Alexandre ?
Le Canada.
Le Canada.
On dit le Québec.
Josiane Letourneau, c'est à vous.
Alors, je salue la fidélité d'Alexandre Jardin à lui-même. Dans ce livre, j'ai reconnu tous ceux que j'ai lus de vous à la puissance 1000. Et si je n'adhère pas à ce manifeste de l'amour, passion, désir, chaque jour renouvelé, j'ai trouvé ce livre foisonnant, amusant et même davantage lorsque j'ai appris et compris l'aspect interactif qui l'entoure. Je me suis surprise à chercher une trace de cette Madeleine Lévy, à vérifier des noms, des sources, des sites. Bref, bravo pour cet enthousiasme et pour cette plume passionnée.
Merci. Merci.
Claire Renaud pour la Suisse, êtes-vous d'accord?
Oui, je suis d'accord aussi. J'ai trouvé que c'était un très beau projet. Hein. L'amour illimité et plein de surprises chaque jour, comme au premier jour, c'est magnifique. Et s'inspirer des livres pour épicer sa vie amoureuse et en plus utiliser généralement les librairies comme lieu de rencontre, je vous comprends entièrement. Il y a quelque chose de magique et l'atmosphère est vraiment magnifique dans une librairie. Alors, je trouve que votre livre, c'est en fait une ode au désir amoureux et une antidote à la communauté des blasés et des cyniques.
Merci, on va essayer de faire des petits.
Des bois d'amblon en Belgique.
Ben moi, comme mes petites camarades, j'ai beaucoup aimé, évidemment, l'idée de votre roman. Ça fait pas de doute, elle est formidable. Alors, peut-être j'ai un peu moins aimé le récit lui-même. Parce que pour moi, votre Alexandre Bull, ben, je trouve qu'il s'est noyé dans ces noms illustres, là, vous les évoquiez, et dont je me suis d'ailleurs un petit peu demandé parfois ce qu'il faisait là. Et puis, dans certaines digressions que moi, j'ai trouvées un peu alambiquées, au point que certaines jolies idées de votre roman ont peiné. Revenir trop perdu que j'étais dans les commentaires.
Et c'est vrai qu'il y a plein de personnages. C'est le grand délire, Alexandre Jardin. On croise Alain Delon, le président Emmanuel Macron, qui s'inscrit sur la page Facebook des Double Cœurs.
Sous un faux nom.
Sous un faux nom. Ouais. Le poète Christian Bobin, on le voit bien, tiens, allez sur les applications comme ça. Une vieille dame de Trois-Rivières au Québec. Une lycéenne, tiens, qui drague les pères de ses amis. Personne ne fait ça. C'est un grand délire.
On ne va pas leur demander de lever la main.
Non, s'il vous plaît. Tenez-vous, on va avoir des problèmes avec l'éducation nationale.
Mais
c'est vrai que c'est le délire.
Non, c'est pas le délire.
Ah, si.
C'est que j'ai voulu mêler des gens de fiction avec des gens réels pour mélanger la fiction et la réalité, puisque c'est un roman qui invite à mêler, à introduire de la fiction à l'intérieur de nos vies. Pourquoi ce serait mieux dans les romans? Pourquoi est-ce qu'on n'injecte pas la puissance de la fiction dans
la vie
quotidienne.
Ouais. Oui. Et vous voulez ça, qu'on vive comme un roman.
Oui.
Comme dans un
roman. Je suis pour. Oui.
Merci Alexandre Jardin. Vous pouvez l'applaudir. Alexandre Jardin. Avec ce livre que je vous montre à tous, Double Cœur, qui est paru aux éditions Grasset. Vous restez avec nous, bien sûr, à suivre Amélie Nothomb, l'artiste calligraphe tunisien Lassad Metoui, et une jeune lectrice, Manon, du lycée Pissarro à Pontoise, qui est dans le public. Eh oui. La librairie francophone est à Radio France, Faites le Livre, avec 200 lycéens invités. Et voici le tout nouveau titre de Vanessa Paradis, extrait d'un nouvel album qui sort ce week-end. 2 minutes 30 de douceur, avec ces mots simples. Merci d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
J'ai quelques mots à te dire des mots simples à te dire. On les entend souvent dans les films, chez les gens. J'ai déjà dit ces mots simples en y croyant ou en feinte. La première fois, enfant, à moi-même de temps en temps. Ces mots simples pour te les dire, je voudrais que tout soupir disparaisse dans ce vent, que l'hiver soit aux amants. Je voudrais, pour dire ces mots, avoir inventé ces mots, qu'on ne les dise chaque fois en ne pensant qu'à toi.
Tout nouveau titre de Vanessa Paradis, ces mots simples, sur la RTS, la RTBF, ici Radio-Canada et sur France Inter.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Canada.
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Amélie Nothomb, invitée d'honneur de Radio France Faites le Livre, est avec nous. Vous échangerez avec Lassa Admetoui dans un instant, Amélie. Mais commençons par votre dernier roman, paru à la rentrée, qui s'est très vite placé d'ailleurs en tête des ventes, comme chaque année. Et chaque année, vous publiez comme ça un roman, comme de grandes nouvelles, des contes contemporains, qui accompagnent les lecteurs, un peu comme si vous donniez rendez-vous aux libraires.
Mais oui, c'est mon rendez-vous, mais pas seulement avec les libraires, c'est mon rendez-vous avec mes lecteurs qui jusqu'à présent me sont fidèles. J'ai l'impression de vivre une très grande histoire d'amour depuis 26 ans. C'est magnifique et en même temps c'est très angoissant parce que chaque année je me demande si cette belle histoire d'amour va continuer. Elle a continué encore cette année, donc ouais. Je suis très heureuse.
Vous montrez comme ça dans ce livre que la vengeance peut aller très loin, oui. Dans les prénoms épicènes, c'est le titre. Oui. Comme souvent chez vous, c'est acide, direct, efficace. Il y a un jeune homme, Claude, qui se fait quitter par sa compagne après 5 ans de liaison. Et ça, il ne l'accepte pas. Alors, il va très vite se marier, en choisissant bien la personne, sans trop en dire.
Ne dites pas tout.
Non, je ne dis pas tout. Je vous promets que je ne dis pas tout. Oui. Et il veut absolument un enfant, très vite, un garçon, une fille, peu importe.
Oui. Je me suis demandé quelle pouvait être la pire vengeance amoureuse. Donc, j'ai peut-être un esprit très tordu, mais il m'a semblé que je l'avais trouvé. Le type qui fait une espèce d'imitation de la vie parfaite par pure vengeance. Mais bien sûr, il faut que la femme aimée soit témoin de tout ça. Et alors, peu lui importe qu'il brise une autre femme, peu lui importe de briser son propre enfant, ça n'a aucune importance. Tout ce qu'il veut sur Terre, c'est se venger. Et si ça doit prendre 20 ans, eh bien, ça n'a aucune importance.
C'est vrai que c'est une vengeance qui se construit sur le succès, sur la réussite. C'est rare comme type de vengeance. C'est une vengeance positive.
Non, c'est une vengeance abjecte. Et en plus, je pense qu'elle n'est pas efficace.
Ah oui.
Mais je crois avoir réellement trouvé trouvé un exemple de vengeance particulièrement tordu.
Claude et Dominique, c'est le couple, vont nommer leur enfant Épicène, car ils ont tous les deux ce que l'on appelle des prénoms épicènes, à savoir des prénoms qui sont à la fois féminins et masculins.
Que rien ne différencie au masculin et au féminin. Voilà. Alors, ce n'est pas une coquetterie de ma part d'avoir voulu que ce livre se place sous le signe des prénoms épicènes. On aura vite compris que la petite fille qui va naître de ce couple postiche ne va pas du tout être aimée par son père. Donc c'est l'histoire d'une petite fille que son père méprise. Or, il paraît que quand une fille n'est pas aimée par son père, elle a beaucoup de mal à s'identifier comme femme, vu qu'elle n'a pas ce premier regard masculin tendre qui la regarde. Et du coup, il lui faut des années, peut-être même jamais, elle ne saura qu'elle est une femme. Donc, il était normal que cette personne porte le prénom le plus épicène de tous, à savoir, elle s'appelle Épicène.
Et vous écrivez à Amélie Nothomb, « Mon père est un monstre. Il me hait depuis ma naissance. Il ne me tue pas parce que c'est interdit par la loi. Il invente d'autres manières de me tuer. Ce qu'il ne sait pas, c'est que je le hais. Je le hais encore plus qu'il me hait. Et un jour, je ne sais pas comment, je le tuerai. »
Voilà, c'est l'histoire de deux vengeances en fait. Puisque on a ce père qui veut se venger d'une femme qu'il a larguée, mais on a aussi cette petite fille qui comprend très vite que son père est un ignoble pervers. Elle ne comprend pas pourquoi il se conduit comme ça avec elle, mais elle sait une chose, c'est qu'elle se vengera. Donc c'est l'histoire de deux vengeances qui vont s'affronter et nous ne dirons pas laquelle des deux va l'emporter.
Il y a souvent dans vos romans, Amélie Nothomb, des rapports familiaux compliqués. Les rapports père-fille, mère-fille, ça vous connaît, vous en avez parlé, mais pas tellement en fait, pas tant que ça. Vous avez quelque chose à régler de particulier avec...
Plus exactement, j'ai remarqué que les crimes qui m'intéressaient le plus, c'était les crimes légaux. Tous les criminels ont peur de se faire attraper par la loi. Or, il y a des tas de crimes qui sont légaux. Détester sa fille, c'est dégueulasse, mais c'est parfaitement légal. On ne peut pas vous arrêter avec ça. Se venger d'une femme aimée en épousant une autre qu'on n'aime pas, personne ne peut vous arrêter pour ça, mais c'est dégueulasse. Donc, c'est vrai que ce qui m'intéresse le plus à travers mes livres, c'est les crimes légaux, les crimes pour lesquels la loi ne peut rien faire.
Vous ne répondez pas à ma question, Amélie.
Oh, écoutez, ma famille est une chose bien compliquée.
C'est vrai. Oui. Ouais. Vous avez vécu des crimes légaux ?
Je pense que nous avons tous connu des crimes légaux.
Bon, j'avais dit que les libraires donneraient leur avis sur votre livre. C'était eux, hein, normalement, qui devaient en parler. Mais on s'est laissé emballer, mais c'est bien. Allons-y, on va pas tout raconter parce qu'on ne peut pas, en fait. Hein, oui. Sinon, on dévoile tout. On va donner la parole à la France. Tiens, Mathieu Colombe.
Oui,
Qu'est-ce que vous pensez de ce livre ?
Bien, moi, j'ai trouvé qu'il était quand même de bonne facture, ce Nothomb de la rentrée. Parce qu'il se laisse lire avec un certain plaisir. Bon, comme à l'accoutumée, il y a une cohérence des différents personnages avec, bien sûr, une personnalité très singulière concernant votre personnage principal, qui est en plus absolument adorable. Et le scénario est très, très bien ficelé. On s'y laisse prendre sans problème. Enfin, bref, je pense que vos aficionados ne devraient pas se retrouver perdus devant ces prénoms épicènes.
Merci.
La Belgique ou le Canada, Amélie ? Question piège.
Oh, la Belgique, c'est mon pays.
Eh oui, Déborah Damblon.
Bah oui. Hein. Moi, je me laisse presque toujours surprendre quand j'ouvre vos romans, Amélie, parce que chaque fois, il m'emporte, il me transporte. Et puis, où diable, allez-vous chercher des idées pareilles, quoi. Vraiment. Alors, moi, ce que j'aime aussi, c'est parce que vous nous bousculez, parce que vous secouez notre goût parfois trop naïf pour les bons sentiments. Et puis, quant à vos personnages, je suis toujours étonnée qu'avec si peu de détails, et notamment si peu de détails physiques, vous arriviez à les faire exister vraiment.
Josiane Nétourneau pour le Canada. je mélange tout. Allez-y, Josiane, êtes-vous d'accord ?
D'entrée de jeu, je vais faire un aveu. J'ai appris la signification du mot épicène et c'est maintenant et à jamais irrémédiablement gravé dans ma mémoire. Alors, sinon, je dois dire que j'ai plongé sans résistance dans ce roman comme sous l'effet d'un sortilège, happé par cette histoire intrigante aux allures de fable, ces tordues, horrifiantes cruautés. Mais je crois que j'ai préféré être plongée dans la tension et le mystère de la première partie du livre au dévoilement de l'intrigue sans pitié de la seconde.
C'est tordu, Amélie Nothomb, vous êtes d'accord ?
C'est très tordu, je suis tout à fait d'accord.
Vous aimez l'avis des libraires, c'est important pour vous, ça.
Mais c'est très important, les libraires d'abord sont mes premiers lecteurs, et je sais que de leur opinion va dépendre l'opinion de beaucoup de gens. Mm-hmm. Donc le libraire est un personnage que je respecte hautement.
À côté de vous, il y a Lassad Metoui. Bonjour Lassad Metoui.
Bonjour. Merci, merci.
C'est un grand artiste, Lassad Metoui, un grand calligraphe tunisien, invité d'ailleurs à Radio France Fête le Livre pour signer son ouvrage Le Pinceau Ivre, paru chez Flammarion, publié à l'occasion d'une grande exposition à l'Institut du Monde Arabe. Vous exposez dans le monde entier, Lassad, et vous avez côtoyé de grands écrivains, de nombreux écrivains, dont un jour d'ailleurs Amélie Nothomb, pour un travail sur le Japon. Vous avez fait un livre rare tous les deux.
Exactement. En fait, la rencontre avec Amélie, c'est très beau. On parle beaucoup de l'écriture, de romanciers, des écrivains, mais on oublie, il y a très peu des écrivains artistes, c'est-à-dire des gens qui vivent l'écriture comme un peintre. Et Amélie, elle possède cet univers exceptionnel en elle. Mon première rencontre avec elle, je n'ai pas vu l'écrivain, j'ai vu le peintre écrivain. Ouais. Et elle vit l'art à 100% artistique. Et c'est ça qui est beau avec Amélie, en fait.
Alors, c'est un livre rare, je le disais, tiré à 15 exemplaires, un dépliant de 10 mètres de long sur le mont Fuji. Il est dans les musées aujourd'hui.
Oui, en fait, c'est qu'on appelle livre d'artiste. En fait, moi, j'aime beaucoup le rencontre dans l'histoire de l'art entre Matisse, Aragon et Miro et d'autres poètes. Et alors, je considère, avec Amélie, j'ai imaginé quelque chose de très beau qui rentre dans l'histoire. Et j'ai de la chance, on a tombé sur un éditeur qui est capable de faire un livre rare, en fait. Ce livre, il fait 12 mètres de longueur.
Ah, 12 mètres.
Et aujourd'hui, le livre, il est dans le plus grand musée dans le monde, en fait. Mm-hmm. Il est au Centre Pompidou, à la BNF, au British Museum, au Tate. Ouais. Et voilà, c'est un livre d'artiste, un livre d'art. Un œuvre d'art, en fait, il y a 10 textes regroupés en petits paragraphes, faciles à lire, et 10 créations en parallèle.
Lassane Metoui, à 8 ans, vous réalisez un premier livre, à 8 ans, associant mots et dessins déjà, et à 16 ans, vous décidez de devenir artiste. Vous vous intéressez alors à la calligraphie. Qu'est-ce qu'on transmet avec la calligraphie?
Dans la calligraphie, il y a l'histoire de l'homme, tout simplement. Il y a ce qu'on appelle la période préhistorique. Il invente le premier livre, à travers le point, qu'on appelle l'écriture cunéiforme. Et à partir de là, la calligraphie, il rentre dans l'histoire de l'univers à travers la tradition égyptienne. Et là, on rentre le premier maître scribe.
Ah oui.
Alors, la calligraphie, elle est très importante dans notre histoire. En fait, elle a influencé beaucoup de monde, entre autres au Japon.
Des artistes aussi. Hein. Van Gogh était influencé par les calligraphes.
Van Gogh,
Monet aussi,
Miro,
avec Hokusai, notamment.
Jackson Pollock.
Qui est une forme.
Beaucoup d'artistes, entre autres, par exemple, dans les jardins zen, inventés par un calligraphe.
David Fuenkinos, qui a collaboré à votre livre, dit que votre œuvre repose, je cite, « sur une conversation incessante entre l'esprit et le cœur, le terrestre et le céleste ». C'est un peu mystique comme travail, comme Amélie qui dit d'ailleurs travailler de façon un peu mystique. L'écriture, c'est mystique pour Amélie.
Exactement, quand on dit mystique, c'est le au-delà, en fait. On parle, tout à l'heure, Alexandre parle de l'amour. Rien qui est plus beau que l'amour, parce que à travers l'amour, on peut toucher l'extase de la pensée. Et l'amour nous guide vers l'ivresse de la connaissance. Et dans la calligraphie, on calligraphie avec le cœur. Pourquoi? Parce que le roseau, il est vide à l'intérieur. Et on apprend à méditer et vider son cœur avant de calligraphier, pour que le mot ait un sens philosophique.
Amélie Nothomb, comme peuvent faire les estampes japonaises, est-ce que la calligraphie orientale, ça vous apaise?
Ça m'apaise énormément, mais pour en revenir au livre de Lassade, c'était une expérience extraordinaire parce que c'est vrai qu'il n'en existe que 15 exemplaires. Alors on pourrait croire que la dédicace était facile, mais détrompez-vous parce qu'il a fallu dédicacer chaque page calligraphiée. Donc c'était, il y avait des rouleaux devant moi, des rouleaux kilométriques et je devais pas arrêter de dédicacer ce truc-là. Quand tu parlais tout à l'heure de préhistoire, c'est vrai que les premiers livres étaient comme ça. C'était, bon, c'était pas la préhistoire, mais c'était des rouleaux. C'était absolument fascinant.
Et votre volonté, Lassade, c'est vrai que c'est comme ça, cette fascination pour le monde, cette volonté de taire les blessures aussi, de calmer les remous du monde.
Exactement, en fait. Si on observe la nature, elle est toujours calme. L'eau, elle suit son chemin dans le ventre de la terre. Si on observe une seconde, on dit comment l'eau, il voyage. L'eau, il voyage sans obstacle. Il faut que notre souffle, notre esprit, il voyage pareil, en fait. Parce qu'on vit une fois, la vie, elle revient jamais en arrière. C'est pour cela qu'il faut méditer, il faut rester zen et vivre, parce que le soleil, il se réveille gratuitement pour tout le monde.
Amélie Nothomb, vous méditez?
Mon unique forme de méditation, c'est l'écriture. J'ai essayé d'autres formes de méditation, je suis nulle, je n'ai pas la présence d'esprit qu'il faut. Mais vous savez que j'écris un minimum de 4 heures par jour, tous les jours,
oui, c'est vrai.
De 4 heures à 8 heures du matin. C'est ma méditation à moi et c'est vrai qu'à ce moment-là, je suis dans un état de conscience qui n'est pas normal et qui, paraît-il, est celui de la méditation.
Donc vous êtes en connexion avec des artistes. C'est facile pour vous de travailler avec des artistes,
facile.
Des peintres?
Rien n'est facile, mais c'est très intéressant.
Non mais facile, je m'entends, il y a une connexion qui se fait.
Il y a une connexion qui est possible, ouais. C'est passionnant.
Vous êtes très constante, Amélie, hein, parce que vous dites souvent ça, et c'est vrai, on en a parlé ensemble hors micro, parce que j'y croyais à moitié, pour être honnête, que vous écrivez 4 heures, et quand vous n'écrivez pas, vous en êtes malade. C'est déjà arrivé une fois.
C'est arrivé une seule fois. Une seule fois, c'est, mon Dieu, ces 30 dernières années, oui. Donc je me donne toujours les moyens d'écrire.
Bon, merci beaucoup, Lassad Metoui. Vous pouvez l'applaudir, Lassad Metoui. Merci. Et je vous montre son livre. Le pinceau ivre, paru chez Flammarion cette année avec la collaboration de David Fuenquinos et qui retrace votre histoire avec tout votre travail. Merci beaucoup, Lassad. Amélie Nothomb, vous restez avec nous. Je rappelle que votre roman Les prénoms épicènes est paru chez Albin Michel. Et nous accueillons une jeune lectrice, elle fait partie des lycéens qui sont dans le public pour cette émission spéciale. Ils sont sages aujourd'hui, c'est incroyable.
Bonjour.
Bonjour Manon.
Bonjour.
Tu as 17 ans, tu es en première L au lycée Pissarro de Pontoise. On salue tes collègues qui sont là dans la salle, très attentifs. Tu vas nous présenter ton livre coup de cœur. Lequel?
J'ai choisi L'hygiène de l'assassin d'Amélie Nothomb.
Ah bah tiens.
Son tout premier.
C'est volontaire.
Oui, c'est volontaire. La semaine dernière, on nous a dit en fait qu'on viendrait donc à la maison de la radio et qu'on la rencontrerait. Du coup, bah, j'ai décidé de commencer par son premier.
Et alors, dis-nous, donc, pourquoi il faut le lire?
Très, très bien. C'est assez complexe parce qu'on a un personnage principal qui est vraiment odieux et méchant. C'est un auteur qui va bientôt décéder et qui autorise 5 journalistes à l'interviewer une dernière fois. Et c'est vraiment un personnage misanthrope, misogyne. Et malgré tous ses défauts, on arrive quand même à s'attacher à lui très longtemps. Moi, je me suis attachée à lui au moins une bonne moitié, jusqu'à ce que je me rende compte à quel point il était odieux. Et non. Mais sinon, c'est assez bizarre parce qu'il a certaines réflexions qui sont même pas très morales. Et on arrive quand même à réfléchir et tout. Enfin...
Donc ça t'a plu?
Oui, beaucoup.
Bon, voilà, Amélie Nothomb, vous voyez.
Je m'attendais à tout sauf à ça, je suis bah oui, très aussi. Impressionnée. Merci Manon.
Merci beaucoup Manon. Applaudissez Manon. Et si comme Manon, vous avez entre 12 et 17 ans et que vous voulez parler d'un livre à l'antenne dans la librairie francophone, contactez-nous par mail librairiefrancophone@radiofrance.com. Et voici Ahmed Sultan qui est installé avec sa guitariste. Ahmed propose une musique urbaine pop marocaine, influencée par les sonorités africaines et les traditions arabes, reconnue sur tout le continent africain, mais aussi aux États-Unis. Il est en France pour faire connaître son nouvel album qui est disponible depuis vendredi sur les plateformes de téléchargement légal. Il en interprète un titre dans une version inédite acoustique pour la librairie francophone. Voici Anna Orassi, Ahmed Sultan.
Merci. Alors juste avant de commencer, je veux juste préciser que Anna Orassi, ça veut dire just me, myself and I, juste moi et moi-même. Désolé, j'ai dit en anglais. Et donc je chante en amazigh et en darija, en marocain. Voilà. On va essayer, ça va te plaire, putain, je vais t'inviter à venir chanter. On y va. Pour toi. Voilà. Non, 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 non. اختبرت اول ارسالي كمل جن غزفت وتختي الاسم راكس فوارس هاجي وحدوي انكيدي في نو انسوق عن كل شي ويكي وينو كي همني راسي غدا وبعدو بنادم يدوي خليهم يقولوا واليوم تهني وتحابوني هبيل ولي باغي يدوي خلي هو وهمو انا وراسي بخير 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 لا لا Merci.
Ahmed Sultan. Ahmed Sultan en acoustique au studio 105 de la Maison de la Radio avec Anna Horassi sur votre radio francophone. Merci beaucoup Ahmed Sultan.
Merci à vous.
Merci beaucoup.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Et bonjour Ahmed Sultan.
Bonjour, bonjour.
Merci beaucoup d'être dans la librairie francophone ici à la Maison de la Radio en public, vous l'avez entendu.
Merci de nous recevoir, public exceptionnel.
Exceptionnel.
Spécial dédicace.
Depuis 2005, vous agitez la scène musicale africaine. Vous avez côtoyé Tiken Jaffa Coli, Angélique Kidjo, encore Zap Mama. Et vous êtes régulièrement nommé pour toutes les cérémonies dites awards en Afrique et aux États-Unis. Vous avez même été en compétition avec Rihanna, One Direction ou Justin Bieber.
Et pourtant, j'ai pas gagné, mais non. On a été nominé deux fois.
Ouais, oui, c'est vrai. Et pourtant, les pays francophones européens vous connaissent pas assez.
C'était pas un choix au début, mais en fait, c'était naturel pour moi de. Je parle amazigh, je parle darija, donc l'arabe marocain.
Ouais.
Effectivement, la zone francophone, le Maroc fait partie de la zone francophone, mais je voulais juste casser un peu les clichés. On me disait tout de suite, tu fais de la musique, tu parles français, il faut aller à Paris. Non, je veux aller là où il y a le rythme.
Dans
où,
le monde.
Moi, ouais. Je veux aller voir mes voisins. Je veux aller au Sénégal, au Nigeria, au Ghana, etc. Donc c'est là-bas que j'ai été d'abord.
Et vous chantez donc en quatre langues, effectivement, oui. Français, anglais, arabe et en langue berbère. Parce que valoriser vos racines, vous dites que c'est très important. Il faut rester fidèle, il faut savoir d'où on vient.
Moi, valoriser, il n'y a rien à valoriser. Je suis, c'est tout, en fait. Ouais. Et donc voilà, donc je voulais, c'est juste tu es. Je suis quelqu'un qui chante ces quatre langues, qui vit ces quatre langues, donc tu es.
Qu'est-ce que vous portez dans vos textes, Ahmed? Est-ce que vous voulez discrètes ou faire passer des messages?
Non, de l'optimisme. Juste, voilà, s'il y a une difficulté, on la contourne. Si on a un malheur qui s'abat sur soi, essayer de tirer le meilleur, voir le côté positif de chaque mauvaise situation. Mais voilà, la vie et le monde, il est déjà suffisamment bien blindé de choses néfastes, mauvaises, malheureuses. Bon, j'ai pas envie de rajouter ma pierre à cet édifice-là. J'ai envie de dire autre chose, c'est tout.
Vous êtes positif depuis toujours. Il paraît que vous avez hésité entre le surf et la musique.
Non, je fais toujours du surf, mais sauf que j'ai jamais voulu être pro parce que ma mère, elle m'a dit, si tu y vas, tu n'es plus mon fils, tu vas mourir. Les vagues, tu sais, c'est pas grave.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire oui, non, d'accord, je vais pas y aller. Sinon, je vais perdre sa bénédiction et je suis un petit peu après dans la merde. Mais donc, non, donc j'ai continué à faire mon surf, ce qui m'a ouvert un peu l'esprit, etc. Ouais. Et surtout, apprendre qu'on peut compter, on doit d'abord compter sur soi. Ouais. Un premier faux pas, tu tombes.
Vous avez un peu le physique du surfeur, d'ailleurs.
Je sais pas.
Vous avez
demandé à mon. Alors, dédicace, physique surfeur ou pas? C'est qui? Voilà.
Ahmed Sultan, vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup, Ahmed. Votre nouvel album est disponible depuis vendredi sur les plateformes d'écoute et de téléchargement en ligne. Merci de nous en avoir parlé en avant-première.
Merci
et bonne
vous.
Route dans l'Europe francophone et au
Merci.
Canada francophone, j'espère pour vous.
Merci
à vous. La chronique des libraires avec les coups de cœur et les coups de gueule. On commence avec un coup de gueule et avec Mathieu Colombe pour la France.
Oui, mais on va parler de Lucky Luke, le dernier.
Allons-y.
Allez.
On a fait un grand reportage avec François Hollande, François de Rugy, Jules et HD sur Lucky Luke il y a quelques semaines.
Et donc, Lucky Luke, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors bon, déjà, Lucky Luke, ça a bercé mon enfance. Qu'est-ce que c'est Lucky Luke? Un peu de Far West, de l'humour et de trois petits repères historiques. Et en fait, à la lecture de ce Lucky Luke-là, le problème que je vois, c'est que déjà, l'humour marche pas. Mais absolument pas, enfin honnêtement, ça fait vraiment pas rire. Ensuite, il y a effectivement des repères historiques, mais qui, ma foi, il y en a tellement qu'on commence à se dire que en fait, c'est un gimmick qu'on fait pour que les parents achètent le bouquin pour leurs enfants, parce que oh, bah, c'est chouette, il y a des repères historiques, alors ça va amuser le gamin, il va apprendre des choses. Je suis pas d'accord, ça ne marche pas.
Je suis pas d'accord non plus.
Et, mine de rien, c'est une licence. C'est devenu une licence. C'était au départ une bande dessinée qui était rentrée au Panthéon, maintenant c'est devenu une licence. Et comme toutes les licences qui existent, ça finit par s'essouffler. Et je trouve que celui qui lutte là, eh ben, c'est l'essoufflement.
Bien, je ne suis pas du tout d'accord, et d'ailleurs certains de vos libraires ne sont pas d'accord, mais c'est pas grave, c'est votre avis. Donc Un cow-boy à Paris est paru quand même chez Lucky Comics. Merci Mathieu. Un coup de cœur en Belgique, Déborah Damblon.
Oui, un coup de cœur pour Isabelle Wery. Isabelle Wery, c'est une femme multiple, elle a une imagination complètement débordante, une écriture échevelée, des sujets tout à fait improbables, des héroïnes qui sont aussi déstabilisantes qu'attachantes, et puis des titres intrigants, parce que son dernier s'intitule « Poney flottant ». Et il met en scène une jeune fille qui est aussi étrange que déstabilisante. Alors, je ne vais pas vous en dire plus, mais plongez dans son écriture et suivez Poney, parce qu'elle s'appelle Poney, et préparez-vous à un fameux voyage.
Aux éditions On lit Poney flottant. Merci Déborah. Josiane Letourneau, Québec. Un coup de gueule ou un coup de cœur, Josiane?
Ben, c'est un coup de gueule sur les éditeurs qui se découvrent féministes en 2018. Alors, comment dire? Quand en 2017, un éditeur regarde son catalogue en réalisant qu'il n'a aucun livre sur le féminisme, je crois qu'il doit y remédier, mais de manière pertinente, inventive, ou diapason avec une actualité littéraire. Alors, durant l'année 2018, j'ai vu arriver en librairie des abécédaires du féminisme, des livres qui auraient dû paraître il y a 10 ans sous cette forme, et qui sont d'ailleurs parus il y a 10, 20, 30 ans chez d'autres éditeurs minimum. Alors, mon message aux éditeurs du monde francophone, de la France et du Québec en particulier, tenez-vous-le pour dit, rattrapez le truc. On va vous attendre toujours si c'est bien fait.
Bah, c'est déjà un peu ça, il rattrape un peu le truc. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit.
Ouais, mais non.
Merci Josiane. Claire Renaud est en Suisse, elle a un petit coup de cœur pour terminer.
J'ai un grand coup de cœur pour Marcel Imsand, intime aux éditions Pierre-Marcel Favre. Intime parce qu'on se promène dans son atelier, on se promène avec sa famille, avec des personnages connus ou moins connus. Et ce qu'il ressort de toutes ces photos, c'est une intensité et une émotion très forte. C'est vraiment un photographe de l'âme. Et j'estime qu'il faut offrir ce livre de toute urgence parce qu'il nous transporte et nous enchante.
Marcel Imsand, intime aux éditions Favre. Merci Claire.
La librairie francophone. Émission spéciale, Emmanuel Quérade.
Et devant 200 lycéens, toujours, qui sont avec nous, à Radio France Fête de Livres, à la Maison de la Radio à Paris, pas très loin de la Tour Eiffel, juste en face. Simonetta Greggio est avec nous pour son roman Elsa, mon amour, paru chez Flammarion. Simonetta, cette histoire raconte la vie d'Elsa Morante. Elle est en adéquation, d'ailleurs, avec les livres d'Alexandre Jardin et d'Amélie Nothomb. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Mais avant, Simonetta, nous sommes donc face à 200 lycéens. Dites-leur qui est, très rapidement, Elsa Morante.
C'est un génie. C'est un génie qui, toute sa vie, a été dans l'ombre d'un mari qui devait être nobélisable, qui n'a jamais eu le Nobel, alors qu'elle qui le méritait a été un peu oubliée. Et j'ai été super en colère de ça et j'ai eu envie de parler d'elle.
On vous connaît pour vos récits flamboyants sur l'histoire italienne, Simonetta, avec des personnages hauts en couleur, comme on dit. Pourquoi cette fois vous racontez la vie de cette femme qui, comme vous le dites d'ailleurs à la fin du livre, est soit idolâtrée, soit parfaitement inconnue? C'est pas une figure qui a marqué l'Italie, ça, contrairement à ce que vous avez l'habitude de faire.
Si, ça a complètement marqué l'Italie, sauf que justement, cette injustice que cette femme, qui est aussi excellente, extraordinaire que Yourcenar ou Duras ou Colette, a été, ces livres ont été mis dans une étagère, et puis ils ont pris la poussière, et voilà. Et ça me rend folle de rage, parce qu'il n'y a rien de tel que l'injustice pour me sortir de moi-même, de mes gonds.
Alors c'est une femme qui vit l'amour avec intensité. Alexandre Jardin va s'y retrouver car elle dira vouloir risquer sa vie à chaque amour. Je cite « tout sacrifier parce que face à l'amour, rien n'a de valeur ».
Mais c'est ce qu'elle disait, mais c'est ce que je dirais aussi, parce que c'est vrai que de toute façon, qu'est-ce qu'on s'ennuie sinon, non? Je ne sais pas, mais...
Demandez à Alexandre, il est à côté de vous.
Alors Alexandre?
Il sourit.
On vous écoute.
Elle a une particularité quand même, cette femme, parce qu'elle tombe amoureuse d'homosexuels, quasiment.
Comme ça, c'est plus compliqué. Bah, c'est mieux. C'est
évidemment, ça pimente.
Pasolini, Visconti, l'artiste Bill Mowow, et même un peu Moravia, qui est, disons,
de temps en temps,
bisexuel.
Voilà. Ouais. C'est, il n'est jamais passé vraiment à l'acte, mais c'était quelque chose qui le tentait beaucoup. Et de toute façon, dans les revanches et dans les vengeances dont parlait Amélie tout à l'heure, c'est fou, parce que Morante est tombée amoureuse de Moravia. Moravia l'a trompée, trahie, lui en a fait voir de toutes les couleurs, etc. Ils se sont quand même mariés. À partir du moment où ils se sont mariés, Morante est devenue un dragon. Elle l'a fait suer tout le reste de sa vie. Donc ça a été une autre manière de se venger, quand même.
Ouais, elle va se venger surtout en remettant en cause sa vigueur sexuelle.
Oui.
Et en se refusant à lui. Et elle dit, il n'y a rien de mieux que de faire ça à un homme, parce que vous êtes sûr qu'il reste toute sa vie pour vous prouver le contraire.
Voilà, sauf que ça ne marche jamais, parce qu'elle a décidé que ça ne marchera pas.
Elle va vivre une enfance compliquée, une jeunesse pauvre, en conflit avec ses parents. Elle rêvera même de tuer sa mère, décidément, on aura tué tous les parents. Amélie Nothomb. On va lire un extrait de votre livre, Simonetta Greggio. Et c'est Amélie qui a accepté cette lecture.
Oh, merci.
Sur la musique du film Le Guépard. On va envoyer cette musique et je vais vous faire un signe, Amélie. Allons-y.
Je me sentais si seule, j'avais besoin de voir le visage de ma mère, de sentir son odeur, lait, salive et miel. Je rêvais d'un mot doux, d'une caresse sur mes cheveux. 2-3 heures à la maison et je me retrouvais projetée sur le trottoir, mon sac à la main, sanglotant de fureur. Les petits terrorisés me regardaient par la fenêtre, sans même oser me saluer de peur de déplaire au tyran. Je ne sais comment j'ai réussi à ne jamais passer à l'acte. Étrangler ma mère, l'éventrer. Lâcher toute forme de raison, enfin glisser dans la folie, vivre le reste de mon existence avec un trou dans la tête, ne plus penser, ne plus souffrir, ne plus être moi, ne plus la haïr, ne plus l'aimer.
Amélie Nothomb qui lit Simonetta Greggio dans la librairie francophone. Avec cette musique incroyable, le film de Visconti, Le Guépard. C'est flippant. Bravo, Amélie.
Vous savez quelle est la différence entre une mère juive et une mère italienne? C'est que la mère italienne vous dit « Fais ça ou je te tue » et la mère juive dit « Fais ça ou je me tue ». Et en fait, quand je dis ça à ma mère, elle dit « Mais il n'y a aucune différence ».
Bon, deux libraires ont lu votre livre, Simonetta Greggio, « La France et la Suisse ». On va commencer en plateau ici à Radio France, faites le livre, par la France donc, Mathieu Colombe.
Allons-y. Eh bien Elsa, mon amour, j'ai trouvé sombre, envoûtant, sensuel et à la fois lumineux. C'est un beau roman biographique et je trouve qu'il ressemble à s'y méprendre à son sujet. Alors, évidemment, une certaine poésie s'en dégage et on se glisse avec délice dans cette belle écriture. On peut d'ailleurs conseiller sans problème aux profanes et à n'importe qui de lire ce livre, tant Simonetta Greggio arrive à toucher et captiver son lecteur.
Ouais, Claire Renaud, en Suisse, êtes-vous d'accord?
Oui, je suis complètement d'accord. C'est un livre absolument magnifique et sensuel qui rend hommage à ce grand écrivain, mais aussi, j'ai trouvé, à l'Italie de cette époque, qui était si riche culturellement. Et votre écriture, elle est chaleureuse, j'aurais envie de dire ronde, mais ça ne veut strictement rien dire. Et votre style, il est quand même sobre et juste. On n'a qu'une seule envie après votre lecture, c'est de partir à Rome et de lire Elsa Morante.
Merci.
Que faut-il lire, tiens, d'Elsa Morante, Simonetta Greggio?
L'Isola di Arturo, l'île d'Arturo, parce que c'est l'histoire d'un enfant entre 10 ans, 11 ans, 12 ans et 14 ans, et c'est cette espèce d'évolution très très rapide qu'il y a à cet âge-là, et ça explose tout. Et puis la Storia, si vous avez envie de sangloter lamentablement Noël.
Et mensonge et sortilège. Elle dira que c'est sa vraie histoire, ça. C'est son premier livre, mais c'est sa vraie histoire, dit-elle.
Oui, mais c'est comme, vous savez, les photos où il y a un enfant qui est mort, mais on s'en aperçoit juste après, et mensonge et sortilège, c'est la même chose.
Non, je vois pas, là.
Pardon.
Tu vois pas comment ça, les photos?
Mais si,
enfant.
Vous savez, il y avait des photos.
Je sens que ça va être horrible.
Dernier. Mais si, mais voilà, Amélie connaît l'histoire. Il y avait toujours des photos qui étaient faites en studio. Quand il y avait des enfants morts, on les mettait dans les bras de leur mère pour avoir une dernière preuve de leur existence, finalement. Et on avait ces photos dont on ne comprenait pas pourquoi ils étaient si sombres, si horribles à regarder. Et on s'apercevait qu'en fait, tout le monde faisait la tête, forcément, et que l'enfant, dans les bras bras de sa mère était mort. Voilà.
Vous connaissez l'histoire, Amélie Nothomb?
Oui, parce que ma mère me disait ça quand j'étais petite et quand je faisais des photos de famille, je regrettais de ne pas être morte.
Tout va toujours bien avec vous, Amélie. C'est un festival. Simona est à vous montrer qu'Elsa Morante n'est pas vraiment de ce monde, effectivement, elle aussi, parce que la guerre, elle vivra, hein, l'entre-deux-guerres, la guerre aussi, et les conflits familiaux, les conventions, tout ça, ça fait une vie qu'elle ne souhaite pas vraiment vivre. Ce qu'elle veut, c'est changer le monde.
Elle, ce qu'elle pense, c'est qu'elle croit, et c'est pour ça qu'elle se barre très très vite de chez elle. Elle avait 16 ans, 17 ans, elle est partie très tôt, et elle voulait écrire des livres qui changeraient le monde. Alors, quel est l'écrivain qui n'a jamais eu ce rêve? Pour moi, écrire, c'est vraiment se donner le moyen d'ouvrir une petite porte dans le cœur des lecteurs et leur dire, voilà ce qui se passe, voilà ce que j'ai compris, tu vas le comprendre en même temps que moi. Et Elsa Morante faisait ça.
Pasolini lui dira un jour, il faut que je te parle de quelque chose, l'un des plus grands secrets d'Italie. Malheureusement, ils se disputent. Donc, il ne lui raconte pas et il meurt.
Oui.
Donc, on ne connaît pas le secret.
Pendant des années, on a dit qu'il a été tué d'une manière bizarre et moche dans une transaction sexuelle qui avait mal tourné. En réalité, et on le sait maintenant, c'est un délit d'État. Voilà.
Et le secret, c'est quoi, vous le savez?
Le secret, c'est si vous avez envie de lire Pétrole, qui est son dernier livre et qui est assez incompréhensible, le secret là-dedans, comme tous les secrets, il est bien... Voilà, il faut aller le chercher. C'est le secret de ce qui s'est passé en Italie pendant ces années-là et qui a fait que l'Italie aujourd'hui est là où on en est.
C'est-à-dire?
On est un peu mal, non?
Non, mais le secret. J'ai pas compris le secret.
Je vous le dirai pas. Elle le dirait.
Comment ça, je vous le dirai pas?
Non, il faut lire tous mes livres et puis tous les livres de Pasolini, etc.
Ah oui, c'est plus compliqué que ça. Mais c'est pas un petit secret comme ça.
Non.
C'est l'histoire de l'Italie.
Non, mais Pasolini, il le disait. Il le disait un mois avant d'être tué. Il disait, moi, je le sais. Je connais le secret. Et il disait pourquoi il le savait. Sauf que, voilà, comme toutes les choses extrêmement complexes, il faut aller jusqu'au fond pour les comprendre.
Bien, on va rester là-dessus, comme ça on va méditer. Merci beaucoup Simonetta Greggio. Elsa, mon amour, est parue chez Flammarion. Merci à vous.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici le groupe franco-suisse Vendredi sur la mer avec un extrait d'Écoute chérie.
J'ai juste laissé le temps courir.
Vendredi sur la mer avec Écoute chérie, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur internet. Et c'est la fin de cette édition, je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. Merci aux 200 lycéens de Radio France Fête le Livre. Merci à vous. À la réalisation, Étienne Bertin, avec à la technique Manuel Couturier, Romain Lenoir et Antoine Espel, Thierry Dupin, la prog musicale. À la rédaction en France, Jean-Philippe Véret et Christophe Magère, Annick Chouin et Madeleine Teucher en Suisse, René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique, Sylvie Julien et Jacqueline Castonguet au Canada. Un dernier mot pour remercier tous les auditeurs français qui ont plébiscité la librairie francophone depuis la rentrée. Selon les dernières audiences, l'émission est numéro 1 en France, devant toutes les radios, et reste encore et toujours l'émission Livre, la plus suivie en France, radio et télévision confondues. Merci pour votre fidélité incroyable depuis 12 ans maintenant. Je vous souhaite un bon week-end. Merci à vous. Merci beaucoup. Bye.